C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Au 96.9, c'est quoi? Il reste deux semaines de campagne électorale. Et si on pensait que tout était joué d'avance, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas. Et
on dirait que c'est de même, les élections.
Non, mais des fois, ça aurait pu ne pas bouger. Mais bon, on en jase avec le chroniqueur politique Philippe Léger, qui est avec nous en studio. Salut, Philippe.
Bonjour.
Salut. Il y en a qui pensaient qu'on s'enlignait vers une lutte à deux, mais il n'y a rien de plus faux selon le sondage de ce matin. Qu'est-ce qui change des intentions de vote, Philippe, selon toi?
Pour la lutte à deux, je dirais oui et non. C'est la réponse la plus plate qu'on peut donner à un animateur. Ah oui et non.
Explique-toi donc.
Non, parce que quand on regarde les chiffres aujourd'hui, le sondage Léger montre que la CAQ est à 38%. Trois autres partis, le PLQ, le PCQ, puis Québec solidaire, est à 16%. Donc, dans le jargon des sondages, on dit égalité statistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de différence entre les différents partis. Puis le Parti québécois à 13%. Ce qui est intéressant du Parti québécois aujourd'hui, c'est que c'est le seul parti qui monte de 2 points. Donc, c'est quand même une montée. Et depuis le début de la campagne électorale, le Parti québécois a augmenté de 4 points.
Mm-hmm. Il était à 9%.
Exact. Ah, ouais. Et la raison pourquoi le Parti québécois augmente ces jours-ci, c'est en raison de son chef. Principalement en raison de son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Oh, t'as perdu.
Ouais, je sais.
Il est tellement dur à dire.
Toujours si proche.
Paul Saint-Pierre.
PSPP. C'est plus facile. PSPP. Donc, c'est en raison de son chef. Quand on regarde son appréciation personnelle, les chiffres sont tout à la hausse. Quand on regarde qui mène la meilleure campagne selon les Québécois, PSPP monte. Surtout, qui a gagné le débat? PSPP monte. Même que PSPP, le Parti québécois, qu'on disait mort puis qu'on écrivait sa chronique nécrologique il y a quelques semaines à peine, au débat, les Québécois se sont dit, ben c'est qui cet homme-là? Il est intelligent, il connaît ses dossiers. Et là, ils sont en train un peu, le PQ sort de l'ombre, PSPP sort de l'anonymat, puis ils sont en train de se dire, hey, il y a quelque chose là. Et il y a même du vote caché encore pour PSPP. Parce que quand on regarde le vote de la CAQ, là, c'est un vote qui est pas si dur que ça. Les Québécois sont pas, les caquistes, précisément, sont pas satisfaits de la campagne qui mène la CAQ.
Ouais, c'est ça. Parce que là, tu parles de PSPP, l'appréciation du chef qui a un impact direct sur les sondages. Est-ce que pour les autres chefs des différents partis, c'est aussi le cas? Ça a-tu une influence?
Oui et non. Ça arrêtera jamais, hein.
Non, mais regarde. Un vrai petit politicien.
C'est ça, je suis déjà prêt. Regardez François Legault. Aujourd'hui, François Legault est à 38%. La Coalition du Québec est à 38% des intentions de vote. Si on regarde, il y a deux semaines, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas de mouvement. Mais les Québécois se disent, François Legault ne mène pas une bonne campagne électorale. Donc, c'est le premier pas pour une descente du côté de la Coalition du Québec. C'est comme si le véhicule, la CAQ, était encore apprécié des Québécois, mais que François Legault, lui-même, précisément, les Québécois se disent, hey, tu mènes une mauvaise campagne. Tu parles dans les explications liées au troisième lien entre Lévis et Québec. L'immigration, c'est difficile. Le pied en bouche, un débat difficile qui... Bon, on ne voit pas à la radio, là, mais je fais la petite moue de François Legault. Là, ce langage, c'est ça.
Du duck face.
C'est ça. Là, ce langage-là verbal.
Et tu m'aimes aussi de te mettre un pied dans la bouche. Là, le voyais pas à la radio.
C'est ça.
Super flexible. On a-tu le temps de parler de Mme Anglade? Oui, Mme Anglade, les gens, d'après le sondage, ont l'air d'accord avec ses résultats, sa performance.
Ça va pas bien pour le Parti libéral du Québec aujourd'hui, hein. Il perd 2%, donc ils sont rendus à 16%. C'est le score le plus bas que jamais eu le Parti libéral. C'est la première fois depuis le 2018 que le Parti libéral n'est pas deuxième. Donc là, il est troisième ou quatrième ou deuxième. Mais bon, c'est vraiment difficile. Et quand on regarde la cote de popularité, donc encore une fois, là, Tammy, le lien entre le chef et le parti, tous les indicateurs pour Dominique Anglade montrent que c'est plutôt difficile. Bon, il y a un débat jeudi. Des fois qu'on s'y attend pas, comme PSPP au dernier débat, on s'y attend pas, on s'attendait pas que ce soit lui. Ça se pourrait qu'elle performe bien, puis qu'elle réussisse à ramener la barque, le navire libéral qui a déjà été un paquebot, puis là qui devient un
canot. Est-ce que tu y crois ou ben non, tu dis ça pour...
Non, j'y crois pas vraiment, mais... je te dis pourquoi j'y crois pas. Rapidement, Martin, parce que tous les partis politiques ont un argument de vente. Le Parti québécois, si tu votes pour lui, tu dis « Ah, je vote parce que je suis indépendantiste, la langue c'est important, l'identité québécoise c'est important. » Si tu votes QS, ben tu dis « Ben moi, l'environnement c'est quelque chose d'important, je pense que ça prend des changements radicaux dans la société. » Si tu votes Parti conservateur d'Éric Duhaime, c'est un vote de contestation contre le système.
Ouais, c'est ça.
Si tu votes pour la CAQ, ben tu dis « Ben moi, je veux continuer avec le gouvernement en place, je suis satisfait du travail de François Legault. » Si tu votes pour le Parti libéral, c'est quoi la raison? C'est quoi le mot?
T'as raison, c'est vrai.
Personne s'en vient en tête. Là. Je suis persuadé que les auditeurs, en ce moment, dans l'auto, se disent, bah, je sais pas trop.
On te garde avec nous, Philippe, pour qu'on comprenne bien l'image. On aime analyser la campagne électorale en comparant au jeu Mario Kart. On va jouer à Mario Kart pour que Billy puisse entrer dans la discussion. Plus que ça, on va jouer à Mario Kart avec Philippe Léger dans quelques instants. Ça s'en vient.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques!
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Oui,
on joue à Mario Kart avec Philippe Léger, expert politicien ici au 96.9.
On se lance. Il reste deux semaines à la campagne électorale. Philippe Léger, si on en ajoutait deux, trois tours de piste de plus, comment ça changerait les choses, à ton avis?
Mais regardez, là, il y a une mer calme. On a l'impression que ça bouge pas beaucoup, là, mais ça bouge beaucoup derrière, en dessous de la mer calme. Il y a encore beaucoup de mouvements qui peuvent se passer. Le débat de jeudi à Radio-Canada va être extrêmement important pour concrétiser des mouvements. C'est-à-dire que là, il y a comme un mouvement à faveur de deux partis politiques. Le Parti québécois, on a parlé, PSPP, et aussi de Québec solidaire, de GND, qui est très, très apprécié par les Québécois. Là, ces deux mouvements-là, comment ça va se traduire dans le réel? Est-ce que véritablement les gens vont changer de vote, vont dire, ben moi, je vais voter ou appuyer une de ces formations-là politiques, je vais délaisser la CAQ, par exemple, ou ils vont se dire, bon, ben, finalement, je suis satisfait du gouvernement Legault, je veux pas trop que ça change, je veux qu'il y ait un gouvernement majoritaire, donc je vais retourner chez François Legault, je vais retourner chez la Coalition Avenir Québec. C'est la question derrière. Est-ce que ces mouvements-là qu'on perçoit vont devenir réels? Est-ce qu'ils vont se traduire par des gens qui vont se dire, ben moi, je change d'idée complètement, je m'en vais dans d'autres partis politiques qui n'est pas la Coalition Avenir Québec?
Qui devrait commencer à regarder dans son rétroviseur parce qu'il se fait rattraper dans la course, là?
François Legault, puis c'est pas parce qu'il se fait tant rattraper. C'est parce qu'il peut se faire gruger des votes. Et en ce moment, au Québec, le Billy, là, l'élection, là, c'est plusieurs élections en même temps dans plusieurs régions. Parti libéral à Montréal, avec Québec solidaire. Le PCQ, le Parti conservateur d'Éric Duhaime dans la région de Québec. C'est là qu'il est bon. C'est pas partout au Québec, là. Le Parti québécois, c'est en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, qui risque de remporter des sièges. Donc, il y a des batailles régionales un peu partout. Puis là, si la CAQ, par exemple, perd 3-4 points. Ouais. Prenons l'hypothèse suivante. La CAQ perd 3-4 points. Les autres partis politiques, PQ, Québec solidaire, Parti conservateur, gagnent 2-3 points. Mais là, dans certaines régions, les batailles deviennent beaucoup plus serrées parce que le PQ, le QS, PCQ sont forts dans une région. Ce qui fait que c'est le score là, qui monte. Ce qui fait en sorte que, ben, admettons, prenons l'hypothèse, la CAQ perd 2-3 sièges en Gaspésie, perd 2-3 sièges à Québec, perd 2-3 sièges à Montréal. Là, la dynamique est complètement changée et la discussion est complètement différente.
Ouais. Il ne voulait pas mettre des proportionnels? Il n'avait pas fait une promesse de proportionnels?
Il voulait, mais finalement, avec 38% des votes...
C'est ça.
Il y a
un chef de parti qui a pogné un éclair et qui donne l'impression d'être plus gros et de pouvoir écraser tout le monde. Mettons, c'est qui?
Ça serait qui?
Bon, on pourrait nommer quelques chefs pour différentes raisons. On pourrait nommer François Legault parce qu'il mène une campagne qui, bon, plusieurs pourraient dire qu'il y a un petit peu d'intimidation dans sa campagne électorale. Il a passé des tracts sur les voitures, sur la taxe orange.
Une confiance à la Denis Coderre.
Confiance à la Denis
Coderre. C'est une bonne chose,
Le deuxième, moi, je pourrais dire, c'est GND. Pourquoi Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire? C'est parce que Gabriel Nadeau-Dubois, quand on regarde tous les indicateurs, il est plus populaire que son parti politique. C'est-à-dire que les Québécois ont une confiance, apprécient Gabriel Nadeau-Dubois, mais ont un petit peu de difficulté avec le véhicule qu'il représente, c'est-à-dire Québec solidaire. Ils ont encore peur de Québec solidaire, notamment sur les questions économiques, tout ce qui est question de taxes.
Oui.
Et François Legault, et la Coalition Avenir Québec en profite, là. Ils font des multiples campagnes en parlant de taxes oranges. Au débat, qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi la phrase qu'on a retenue? On a retenu que peut-être Québec solidaire voulait taxer les Toyota Camry. Ben c'est ça qu'il a dit. Ben c'est ça qu'on retient encore la semaine d'après. C'est ça une bonne attaque politique.
Mais oui. Sinon, on a parlé un petit peu, mais tu sais, quel chef, selon toi, aurait avantage à changer de bolide pour la prochaine course?
Bon, ben, c'est sûr que c'est Dominique Anglade, du Parti libéral du Québec.
As-tu encore le temps de faire des changements?
Pas vraiment. Mais le véritable problème, moi, pour Dominique Anglade, c'est bien sûr un peu Dominique Anglade, mais c'est principalement son véhicule. C'est pour ça qu'il faut que changer de bolide.
Ouais, parce que est articulée, elle est intéressante, Dominique Anglade.
C'est pas un imposteur, mais c'est difficile de défendre des idées quand le parti lui-même se cherche.
Je pense que c'est le bolide qui va changer de conducteur.
Voilà.
C'est vrai?
Ben, c'est sûr que ça va
changer. L'histoire du Parti libéral, elle est atroce.
Il mange le chef. Même le PQ, s'il perd, je pense pas que ça arrivera là avec Paul Saint-Pierre Plamondon, mais peut-être je me trompe.
On termine. Qui risque d'être à court de munitions le plus vite parmi tous les chefs?
Bon, je pense que Éric Duhaime, on pourrait le nommer un peu, commence à être à court de munitions parce que là, il a augmenté à 15% des intentions de vote. Ce qu'on s'aperçoit, c'est par contre, c'est qu'Éric Duhaime a la tête un peu sur le plafond. C'est-à-dire qu'il ne peut pas monter davantage. C'est comme s'il prêchait sa chorale. Il a convaincu les gens qui aimaient, mais là, c'est difficile d'aller en chercher des nouveaux. Et c'est un phénomène plutôt régional de la région de Québec. À l'extérieur de Québec, à l'extérieur de la Beauce, c'est difficile pour Éric Duhaime de faire des gains. Le problème, c'est qu'il peut avoir 15% des voix, ce qui est très, très bon pour un parti qui était très, très loin il y a un an et demi avant qu'Éric Duhaime le prenne. Mais ça pourrait se traduire seulement par 1, 2, 3 sièges, même peut-être 0, là, tu sais.
Mais s'il fait un débat jeudi qui, tu sais, qui a 100 à l'autre bord, ça peut changer les affaires quand même.
C'est parce qu'on pourrait tout le temps dire, il va regarder le débat. Ouais. Le débat, parce que le débat de jeudi là, il est extrêmement important parce que là les tendances sont créées dans la population. Puis là, c'est le temps de confirmer ou d'infirmer ces différentes tendances là. Écoutez-le.
Philippe, on a une tendance. Merci, on a tendance Philippe. À te réinviter. Tu vas revenir la semaine prochaine, c'est certain. Philippe Léger, expert en politique ici au 96.9. C'est quoi dans Debout les comiques?
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Hey, on en a parlé hier, l'idée du Parti conservateur de monter la limite de vitesse à 120 là, sur certaines autoroutes. J'ai réfléchi à tout ça. Hein, ça m'a pris une petite nuit. Et finalement, je suis contre.
T'es contre ça?
Je suis contre parce que 120, c'est niaiseux. On devrait rouler à 140 à place.
OK, c'est pas assez.
Non, mais 140, j'ai trois arguments à vous soumettre. Okay? J'ai pas dormi de la nuit.
Grosse nuit, là.
Ouais, ouais. D'abord, c'est pour une question de sécurité. 100% des accidents mortels de la route ont lieu sur la route. C'est un fait. Puis oui, le fossé puis le terre-plein, ça compte comme la route, que le défunt y soit au complet ou en morceaux.
Mais non.
Hein?
Ouais, OK.
Plus longtemps on est sur la route, plus on a de chances d'avoir des accidents. Donc, rouler vite, c'est arriver vite à la maison. Si on fait le calcul, rouler 140 au lieu de 100, c'est réduire ses chances de mourir de 140%.
Ouais. Ah, ouais.
Donc, rouler à 200, c'est éliminer complètement ses chances de mourir sur la route. C'était mon premier argument.
Wow, c'est solide.
Merci.
La statistique, c'est pas ta force, mais sinon, continue.
Deuxième argument. Le gaspillage alimentaire. Quand tu frappes un chevreuil à 100, il est magané, ton char est magané, mais pas tant que ça. Pas assez pour, tu sais, aller chez le garage, le faire mourir. Okay. Tandis que, quand tu frappes un chevreuil à 140, là, il décolle dans une ligne droite et risque même d'atterrir chez vous. Avant même que tu arrives, il est prêt pour le barbecue, direct. Puis, avec un peu de chance, s'il y a un vent favorable, il revole direct chez Bob le chef. Alors lui, il va te faire un délice pour souper. Pas de viande, on perd pas de temps.
C'est clair, il va faire aussi le saut, on va se le dire.
Oui, là, le deuxième argument est plus pointu.
Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais j'y vais de plus en plus pointu.
Okay.
Non,
Non.
J'ai bien réfléchi, Billy. Troisième et dernier argument. Tu vois, c'est plus complexe, l'économie.
Okay.
Dans les épiceries, dans les magasins, on manque de plein d'affaires parce que les commandes rentrent pas. Pèse et ça suce. Si tout le monde roule à 140, on va pouvoir débarrer les vannes puis leur permettre de clencher. Puis en plus, c'est bon pour l'environnement. Un 50 pieds à 140 km/h, ça fait assez de vent pour te ralentir un réchauffement climatique.
Ben ouais.
En rafale. OK, parce qu'après les trois arguments, je vais détruire les contre-arguments parce que je les entends déjà.
Ouais.
Toute la nuit.
Est-ce qu'il y a un examen après ça?
Non. Même si tu veux, je peux te remettre toute ma réflexion réflexive. Alors, les contre-arguments. Mais Tammy, la distance de freinage est vraiment plus grande à 140?
Ben ouais.
Ma réponse à ça? Freine pas, avance.
OK. Oh ouais.
Mais Tammy, on consomme plus d'essence à 140. C'est vrai, mais c'est pire à 160.
Ouais.
Autre contre-argument. Mais Tammy, les arguments, les accidents sont tous mortels à 140. Ma réponse à ça, ça dépend si le cycliste porte un casque ou pas.
Ah ouais?
Ouais.
Bob le chef va peut-être recevoir un cycliste.
Il peut te l'apprêter. Il peut tout faire, Bob le chef.
Fait que, messieurs les conservateurs, si vous voulez accélérer la vitesse sur nos routes, faites-le pour vrai. Je propose 140. Je pense 160 et je rêve 180. Là, mais, faites-le. Mais pas dans les zones scolaires parce que les dos d'âne, ça bagane trop les chars.
Ouais, c'est ça.
Alors, pensez. Alors, voilà, c'était Tammy qui vous le disait.
Ben, merci, ben oui, ma chère
ça
Tammy.
M'a fait plaisir.
Le podcast Debout les comiques.
Il y a l'Association pour la protection des automobilistes qui, actuellement, lève un petit drapeau rouge dans la presse ce matin pour dire qu'ils reçoivent des plaintes vraiment presque tous les jours ces temps-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a des concessionnaires automobiles qui utilisent des stratégies qui sont de l'escroquerie et, ils disent ça, des comportements rapaces. Ça, c'est les mots utilisés par l'Association pour la protection des automobilistes. Okay? Je vous explique ce qui se passe. C'est des ventes forcées. d'accessoires, des ventes forcées de garanties prolongées qui sont lucratives pour les vendeurs, pour les concessionnaires, qui actuellement sont imposées à ceux qui n'ont pas de véhicule d'échange. Par exemple, moi, j'ai pas de char déjà, je veux aller m'acheter un char, et là, c'est comme si j'embarque dans une guerre au plus offrant. Fait qu'il y a quelques minutes, j'ai donné l'exemple de Sébastien. Sébastien qui, lui, arrivait chez Honda, c'est dans l'article qu'on apprend ça, et on lui disait que c'était pas un client assez payant, malheureusement, pour repartir avec son véhicule.
Et on lui a dit ça donc, comme ça, là.
Ah oui! Les mots utilisés. Il n'était pas un client assez payant. Et donc, on lui a dit, ben si vous ajoutez des accessoires, ça va grimper votre facture de 4000 $. Et là, à ce moment-là, là, vous pourriez partir avec le véhicule. Et Sébastien qui dit, mais là, je me suis senti pris au piège. Et on le comprend.
Il faut comprendre que les concessionnaires profitent du manque de véhicules. Il y a une pénurie de véhicules, donc il y a une rareté.
Ben oui.
C'est là-dessus qu'ils s'appuient pour y aller au plus offrant, comme pour l'immobilier. Là.
Ben oui, exactement. Il y a un autre exemple concret. Arthur Willett, lui, qui a vécu une histoire similaire chez Toyota, pour sa part. Lui, ce qu'on lui a proposé, c'est deux choix, parce qu'il arrivait sans véhicule d'échange. Fait que le concessionnaire n'a pas le véhicule qui reprend et qui peut revendre par la suite à plus gros prix, puisqu'il n'y a pas de véhicule, comme tu disais, Martin. Alors donc, on lui a dit, tu as deux choix. Soit que tu te procures 800 $ d'options supplémentaires, ou bien tu acceptes que ta vente se transforme en location. Donc, puisqu'il y a une location, ça fait en sorte que...
Le véhicule revient au concessionnaire à la fin.
Absolument, mais surtout, le taux d'intérêt est plus élevé.
T'es coincé.
Ouais. Mais
je trouve ça vraiment inadmissible. Ouais. Ça n'a pas de bon sens.
Et dans le cas d'Arthur, ce qui est fâchant, c'est que le contrat avait été conclu des mois plus tôt.
Plus.
Donc, par exemple, on peut imaginer que peut-être qu'il avait commandé un char il y a longtemps, peut-être même un char électrique ou peu importe. Et finalement, il a dit, écoute, le directeur des ventes du concessionnaire est revenu puis il a dit, tu vois-tu mes fichiers ici, là? Tu vois mes papiers? Ça, c'est 50 personnes qui attendent en file pour le même char que toi. C'est sûr que moi, je vais privilégier un client plus payant que toi.
Ah. Est-ce que c'est légal de faire ça? Est-ce que la protection du consommateur, c'est-tu prononcé sur ces pratiques-là? Ou...
Écoute, il y a la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec. Mm-hmm. Donc, Robert Poëty, le PDG, qui, en entrevue avec la presse, a dit « On peut pas obliger quelqu'un à acheter quelque chose s'il ne le désire pas. Ça, c'est contre la loi. » Mais il disait, tu sais, quand tu veux pas quelque chose, tu dis non,
ouais, je comprends.
Ça finit là.
Je comprends.
Sauf
mais...
que ça veut dire que tu perds le véhicule.
Mais c'est parce que c'est ça, t'arrives à un moment où t'as pas de véhicule d'échange, donc t'as pas de véhicule du tout.
C'est
t'as
ça.
Besoin probablement d'un véhicule maintenant. Et là, ta seule option, c'est d'augmenter ta facture pour l'avoir.
Dans le fond, tu peux dire non pour pas payer plus cher. Sauf que va s'en suivre des conséquences qui sont, ben, tu repars les mains vides, tu n'as pas plus de véhicule, tu sais. Fait que t'es comme pris au piège, comme Sébastien l'explique dans l'article. C'est vraiment un problème actuellement qui est justement est dû à la pénurie de véhicules.
Hey, mais je suis curieux de savoir si nos auditeurs ont vécu ce genre de pression-là.
Hey,
vous fait mettre ce genre de pression? Je suis sûr que oui, qu'il y en a qui... Parce que la vie fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui nous écoute qui a acheté un auto dans les dernières semaines,
Antoine
les derniers
et moi,
mois.
On est en file pour avoir un auto. Ils nous ont demandé un acompte de 500 $ pour être dans la file, ce qui me semble honnête. Mais là, j'ai peur du résultat après. Là.
Mais
quand
vois,
ils vont nous appeler puis ils vont nous dire
arrivé.
On a un pour vous, mais ça va vous coûter beaucoup d'options en plus.
As-tu un véhicule en retour?
Oui.
Mais à ce moment-là, tu ferais pas partie du problème selon ce que je peux lire dans la presse.
Le podcast Debout les comiques.